J'appelle Nelly et puis son mari a venu prier pour ce temps. Allez. Donc vous pouvez prier dans votre langue. Alléluia. Amen.
L'Éternel, Baba Nzapa, Baba, tu Seigneur, tu as Jésus, na ya yu moi ke Nzapa, na sese moi ke Nzapa, mbeni Nzapa, tu as kana moi ke Pepe, Baba, ni beni tron, tu gloire, tu vois, ni beni miséricorde, tu vois. Et Zabo, il colle, tu m'en sois, gâti, fatin, sous, na ya ma boko, tu m'en tenais, tu l'oe ke sengé, sous, mon Seigneur, ça, c'est mon yu, l'an, gang, ou, tu m'en. Zatene, quoi, solo, ke fa, à l'ing, tu vois, place, na becha, amara, tu m'en. Gloire, na yango, irakina, moi, et Zalo, gnag, bemene, tu m'en, get, mon solo, ke Seigneur, sauveur, tchani, amen.
Amen.
Le message aujourd'hui, les 10 plaies d'Égypte. Vous allez voir que c'est pas toujours ce qu'on croit. Beaucoup d'entre vous connaissent probablement les grandes lignes de l'histoire de l'Exode et de l'ancien Israël pour fuir l'esclavage d'Égypte. Pour résumer brièvement, les Israélites immigrèrent en Égypte à l'époque de Joseph, fils de Jacob. Au fil des années, les Égyptiens vinrent à considérer les Israélites comme une menace. Un nouveau pharaon arriva au pouvoir et voulut asservir les Israélites. Les conditions pour eux devinrent très mauvaises, allant jusqu'à tuer les bébés mâles des Hébreux pour réguler la population. Mais le temps arrivait où les promesses données par Dieu à Abraham pour ce temps d'esclavage arrivaient à leur terme. Effectivement, si nous reprenons Genèse chapitre 15, versets 13 à 16, l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront immigrants dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves et on les maltraitera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation dont ils auront été les esclaves et ils sortiront avec de grands biens. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car c'est alors seulement que la déchéance morale des Amoréens aura atteint son comble. Les descendants d'Abraham furent immigrants tout d'abord en Canaan, puis en Égypte pendant 430 ans au total. Cette interprétation est d'ailleurs confirmée par Galates chapitre 3 versets 17 à 18. Dieu a donc suscité un libérateur comme Moïse parmi ce peuple, et après des péripéties dont nous ne parlerons pas, Dieu dit à Moïse qu'il ferait trois choses, selon Exode chapitre 7, versets 1 à 5. Premièrement, il ferait sortir les Israélites d'Égypte. Deuxièmement, il le ferait par de grands jugements. Et troisièmement, il le ferait afin que les Égyptiens sache que je suis l'Éternel, le vrai Dieu. Dans Exode chapitre 12, verset 12, Dieu ajoute qu'il fera une chose très importante. Il dit: j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Ce faisant, il donnera une leçon aux Égyptiens et aux Israélites, lesquels résidaient en Égypte depuis plusieurs générations et s'étaient éloignés de la religion de leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Les Israélites étaient complètement immergés dans une culture et une religion égyptienne corrompues. Nous allons ouvrir un premier chapitre, c'est le début de la délivrance et les préliminaires. Comme Moïse avait quelques difficultés à s'exprimer, c'est Aaron qui était son porte-parole. Dieu parlait à Moïse et Aaron parlait à Pharaon. Dès le début, Dieu avait prévenu Moïse que Pharaon refuserait jusqu'au bout de laisser partir Israël, mais qu'il devait insister jusqu'à la réalisation de la délivrance par la main puissante de Dieu. Dans un premier temps, il donna quelques pouvoirs surnaturels à Moïse et à Aaron afin de les convaincre, de convaincre leur interlocuteur qu'ils étaient bien envoyés par l'Éternel, le Dieu d'Israël. On peut préciser que Dieu, dans sa toute-puissance, permit à, que ses messagers soient reçus à chaque fois par Pharaon. Lors du premier contact avec Pharaon, Aaron jeta son bâton devant Pharaon pour l'étonner. Son bâton devint un serpent vivant. Mais les magiciens d'Égypte firent la même chose. Si bien que le bâton d'Aaron mangea tous les autres serpents, cela ne convainquit pas Pharaon. Exode chapitre 7, verset 13. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Éternel. Et c'est à partir de ce moment que commencent les 10 plaies d'Égypte pour prouver la gloire de Dieu. La première plaie, l'eau changée en sang. Donc le lendemain matin, Moïse retourna voir Pharaon pour lui demander de laisser partir son peuple hébreu pour qu'il serve l'Éternel dans le désert. Exode, chapitre 7, verset 19 à 20. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, prends ton bâton et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur les bras de leur Nil, sur leurs étangs et sur toute pièce d'eau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans toute l'Égypte. » Dans les récipients de bois et de pierre. Le résultat ne se fit pas attendre. Toutes les eaux devinrent du sang, même les poissons du Nil crevèrent et furent un immense cloaque. Les magiciens d'Égypte imitèrent cette plaie. Les pharaons s'endurcirent encore plus. Cette plaie dura 7 jours. Les Égyptiens durent creuser des puits pour boire, selon Exode chapitre 7, verset 24. Il n'y avait que la nappe phréatique qui n'était pas contaminée. Les Égyptiens considéraient le Nil comme si important qu'ils adoraient plusieurs dieux chargés de veiller sur lui. Le grand dieu Nou était considéré comme le donateur et le gardien du Nil. Apis, l'esprit du Nil, était responsable de la crue annuelle qui fertilisait par son limon les berges de chaque année. Osiris, dieu des morts, était semblable au sang qui coulait dans le cœur de l'Égypte pour donner vie à ce pays. La déesse Amétis, gardienne des poissons et des pêcheurs. Tous ces dieux et déesses furent impuissants à empêcher cette terrible plaie de s'accomplir sur le Nil. Les faux dieux égyptiens furent démasqués par l'Éternel, le vrai Dieu devant Pharaon et devant tous ses serviteurs. Le peuple n'étant pas libéré, il y eut une deuxième plaie, les grenouilles. Aussitôt après, Exode chapitre 7, versets 26 à 29. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, Ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, moi je vais ravager tout ton territoire par les grenouilles. Le Nil fourmira de grenouilles. Elles pénétreront dans ton palais, dans ta chambre à coucher et sur ton lit, dans la maison de tes serviteurs et chez ton peuple, dans les fours et dans les pétrins. Les grenouilles étaient considérées comme une manifestation de la déesse Eket, déesse de la naissance et épouse du Créateur du monde. Eket était représentée par une tête de grenouille et un corps de femme. Les dieux primordiaux, c'est-à-dire les plus anciens, Nou et Kekou, étaient dépeints comme des hommes à tête de grenouille. Les grenouilles étaient tellement sacrées que le fait de marcher accidentellement sur l'une d'elles pouvait être puni de mort. Mais comment l'éviter quand il n'y en avait partout sur le sol et ailleurs? Finalement, les Égyptiens durent les sortir et en faire des monticules pourrissants et puants. Mais les magiciens de Pharaon imitèrent également cette plaie. Pharaon fit croire à Moïse qu'il accepterait de laisser aller Israël pour que la plaie des grenouilles cesse. Et la plaie des grenouilles s'arrêta le lendemain. Exode chapitre 8, verset 11. Mais le Pharaon, voyant qu'il y avait du répit, endurcit son cœur et n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Éternel. Donc il y eut une troisième plaie, l'époux. Certains parlent de moustique. Dans Exode chapitre 8, versets 12 à 13, l'Éternel dit à Moïse, « Dit à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Elle deviendra l'époux dans tout le pays d'Égypte. » Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière du sol. Et elle devint d'époux sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière de la terre devint d'époux dans tout le pays d'Égypte. Exode chapitre 8, verset 15. Ajoute. Alors les pharisiens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur du Pharaon s'endurcit encore une fois, il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel. Cette plaie était dirigée contre le dieu Gept, le dieu de la terre. La terre produisait des poux irritants et mordants plutôt que des récoltes, des fruits, des légumes. Harpocrate et Ibutep, dieu de la médecine, n'apportèrent aucune guérison. Les prêtres égyptiens ne pouvaient même plus accomplir leur service au temple, tant ils étaient contaminés par l'époux. Dieu montra exactement qui était aux commandes. Une quatrième plaie, les mouches. L'expression « les mouches » fut rajoutée par les traducteurs, mais ne figure pas dans l'hébreu original, qui utilisa simplement le mot essaim, en référence aux insectes bourdonnants et volants. Exode chapitre 8, versets 16 à 18. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon lorsqu'il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras ainsi par l'Éternel. Laisse partir mon peuple et afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas partir mon peuple, je vais lâcher contre toi des mouches venimeuses. Contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre les maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, ainsi que le sol sur lequel ils se trouvent. Mais ce jour-là, je ferai une distinction entre le pays de Goshen, où se tient mon peuple, et il n'y aura point de mouches. Alors que tu reconnaisses que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce peuple. À partir des mouches, ce fut la première plaie pour laquelle fut une distinction entre son peuple et les Égyptiens. Cette peste visait les dieux égyptiens Khepri, représentés par un homme avec une tête en forme de scarabée. Khepri était considéré comme le dieu qui poussait le soleil dans le ciel. Celui-ci s'avérait incapable de contrôler les insectes hautement destructeurs qui se frayaient maintenant un chemin à travers les maisons et les bâtiments égyptiens. Pharaon marchanda avec Moïse pour que la plaie cesse. Exode chapitre 8, versets 27 et 28. L'Éternel agit selon la parole de Moïse. Et les mouches s'écartèrent de Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais le Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa pas partir le peuple. Une cinquième plaie, c'est la mort du bétail. Vous voyez, il y a une progression dans les différentes plaies qui touchent de plus en plus les nations égyptiennes. Exode chapitre 9, versets 2 et 3. Moïse s'adressa encore à Pharaon. Si tu refuses de le laisser partir et si tu le retiens encore, la main de l'Éternel sera sur ton cheptel qui est dans la campagne. Sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur le gros et petit bétail. Il y aura une mortalité très grande. Là encore, Dieu souligne la différence entre Israël et le pays d'Égypte, puisqu'il est dit dans Exode chapitre 9, verset 4, « L'Éternel distinguera entre le cheftel d'Israël et le cheftel d'Égypte. » Il ne périra rien du tout de tout ce qui appartient aux Israélites. Même le temps où la plaie devait s'abattre était fixé pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la puissance du Dieu d'Israël. Ainsi, la mort d'une grande partie du bétail d'Égypte s'accomplit le lendemain où le Pharaon en fut informé. Il fit néanmoins vérifier par ses serviteurs que dans le pays de Goshen, aucun animal n'était mort, ce qui ne l'empêcha pas d'endurcir son cœur. La cinquième plaie s'abattit sur les animaux des Égyptiens et allait avoir un impact très important sur l'économie égyptienne. Elle eut des répercussions sur la nourriture, le transport, la capacité militaire, agricole et sur les biens économiques que produisaient ces animaux. En Égypte, le bétail était considéré comme sacré. Les Égyptiens adoraient beaucoup d'animaux, ils parlaient, et parmi eux se trouvaient les taureaux et les génisses. Le dieu de la création, Ptah, était représenté par un taureau vivant connu sous le nom d'Apis. Le bœuf Apis était sacré, et quand il mourut, les Égyptiens pleurèrent comme s'ils avaient perdu un pharaon. Et l'animal fut embaumé et mis dans une tombe. Les dieux créateurs du soleil Atuméré, réunis en une seule et même divinité, étaient représentés par un taureau noir appelé Merver. Les dieux de l'Égypte, bien que très nombreux, étaient bien ciblés et la population égyptienne devait être désespérée de ce qui arrivait. Elle devait se poser des questions sur l'utilité de ces dieux. Une sixième plaie, les ulcères. Après les bétails, c'est les Égyptiens qui sont atteints. Effectivement, si nous reprenons Exode chapitre 9, versets 8 et 9, l'Éternel dit à Moïse, « Prenez à pleine poignée de la suie de fourneau, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. » Elle deviendra une poussière sur tout le pays d'Égypte. Elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les bêtes, des ulcères avec éruption de pustules. Même et surtout les magiciens ne furent touchés par ces ulcères et ne purent se présenter devant Pharaon. Les Égyptiens adoraient plusieurs divinités guérisseuses, sacrifiant même des êtres humains à l'occasion. Les victimes étaient brûlées sur un autel et leurs cendres étaient jetées en l'air, où le vent les dispersait sur le peuple. C'est pour cela que l'Éternel procéda de la même façon que les religieux égyptiens. Moïse prit des cendres de la fournaise et les jeta en l'air. Les cendres furent dispersées par le vent et retombèrent sur tous les prêtres, sur les champs et sur les animaux survivants. Cela se transforma en ulcères douloureux. De larges furoncles sur leur corps. Cette plaie a été un affront à un certain nombre de dieux égyptiens de la guérison. L'un d'eux, que nous avons déjà mentionné, Imhotep, dieu de la médecine, un autre était Thoth, dieu de la connaissance et de la science à tête d'ibis. Un autre ne veut Néfertou, dieu de la renaissance, de l'immortalité et de la guérison. Ça avait des super titres, tous ces dieux. Exode chapitre 9, verset 12. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et le Pharaon n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Vous voyez là, il y a une différence. C'est plus Pharaon qui endurcit son cœur, Dieu endurcit également le cœur de Pharaon pour accomplir sa volonté. Dieu intervient lui-même dans la personnalité de Pharaon pour que son projet allège jusqu'au bout. Même les hommes peuvent être façonnés par Dieu. Plusieurs passages du livre des Proverbes expriment de façon particulièrement vivante le fait que Dieu dirige même le fort intérieur des hommes, c'est-à-dire leur cœur, et les actes qui en proviennent. Dans Proverbes chapitre 21, il est même dit « Le cœur du roi est comme un cours d'eau dans la main du Seigneur. Il le dirige partout où il veut. » Ce fut le cas pour Pharaon à partir de la sixième plaie. La septième plaie, la grêle. Là, c'est pareil, il y a un échelon supplémentaire. Et ensuite, le fléau de la grêle. Cela a dû sembler inhabituel, car la région où cela se produisait ne recevait qu'environ 5 cm de pluie par an. Exode chapitre 9, versets 22 et 24. L'Éternel dit à Moïse, étend ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les bêtes et sur tout l'herbe des champs dans le pays d'Égypte. Il y eut de la grêle et du feu se mêlait avec la grêle. Elle était si violente qu'il n'y en avait pas eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis que la nation existe. La grêle provoqua d'immenses dégâts sur ceux qui étaient à découvert dans les champs, y compris les arbres qui furent brisés. Puisque cette plaie venait du ciel, la déité la plus importante discréditée par cet événement était Nou, la déesse du ciel. Elle est souvent représentée dans l'art égyptien avec son corps qui est peint d'étoiles. Chou était le dieu de l'air et le porteur du ciel. Horus était la troisième personne de la membre de la Trinité égyptienne, un dieu à tête de faucon. Seth était le dieu des tempêtes et le protecteur des récoltes. Mais tout ça fut balayé. Moïse avait demandé aux Égyptiens de se mettre à couvert, ainsi que les animaux, pour éviter qu'ils ne soient touchés par la grêle. Et c'est ce que firent un certain nombre d'entre eux. Dans Exode chapitre 9, versets 33-35, Moïse sortit de chez le Pharaon et hors de la ville. Il tendit ses mains vers l'Éternel, le tonnerre et la grêle cessèrent. Et la pluie ne se déversa plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et le tonnerre avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Nous voyons que si le cœur de Pharaon était endurci, celui de ses serviteurs était de même. Donc tout le monde dans le même sac. Les plaies se suivaient et se superposaient, touchant parfois les hommes, les animaux ou la végétation, mais s'accomplissaient avec intégralité sur les Égyptiens et sur leur territoire. La huitième plaie, les sauterelles. La plaie de la grêle fut suivie d'une autre, encore plus dévastatrice, les sauterelles. La plaie de la grêle avait anéanti les récoltes et la plupart des plantes. Mais le peu qui avait survécu serait maintenant dévoré par les sauterelles. La huitième plaie, les sauterelles. Exode chapitre 10, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Pharaon, va vers Pharaon, car c'est moi qui ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et aux fils de tes fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait apparaître chez eux. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Le déroulement de ces plaies était un témoignage également pour les générations futures parmi les Israélites. La condamnation des sauterelles est confirmée. Exode chapitre 10, verset 4. Car si tu refuses de laisser partir mon peuple, demain je fais venir des sauterelles sur ton territoire. Avant cette plaie, Pharaon proposa une version intermédiaire au départ des Israélites, mais Moïse et Aaron refusèrent. La chose était entendue par Pharaon et la plaie allait pouvoir s'accomplir. Une partie des Égyptiens d'ailleurs commençait à contester et faire connaître le désir de voir partir Israël. Si Pharaon était indécrottable, les Égyptiens commençaient à réfléchir à la chose. Dans Exode chapitre 10, verset 14, les sauterelles montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent dans tout le territoire de l'Égypte. C'était si grave qu'auparavant il n'y avait jamais eu tant de sauterelles et qu'il n'y en aurait jamais plus autant par la suite. Vous voyez, c'est dramatique pour eux. Les sauterelles dévorèrent tout ce qu'avait laissé la grêle, si bien qu'il ne resta absolument rien dans les campagnes. Comme précédemment pour les plaies, les dieux d'Égypte se sont tus. Où était le gardien des champs à tête de chacal, Anubis? Qu'en était-il du dieu agricole en chef, Osiris? Les champs étaient dévastés par la grêle, brûlés par le feu et maintenant dépouillés par les sauterelles, témoignaient de l'impuissance des dieux égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et ne laissa pas partir Israël. Je peux vous dire qu'après cette plaie des sauterelles, il ne restait plus rien, plus aucune récolte dans tout le territoire de l'Égypte. Et certainement, cela a dû mettre plusieurs années à reverdir de nouveau. Donc ce n'était pas un mal passager, c'était vraiment la catastrophe pour eux. La neuvième plaie, les ténèbres. Le peuple d'Israël n'était toujours pas libéré. Les plaies s'accomplissaient. C'est Exode chapitre 10, versets 21 et 23. L'Éternel dit à Moïse, étends la main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres palpables. On ne se voyait pas l'un l'autre et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. On peut quand même se demander que fait à cet endroit cette plaie de ténèbres, qui n'est pas traumatisante en soi pour les Égyptiens. Mais Dieu a une vision globale de toutes ces plaies. Je vous rappelle une des raisons pour laquelle Dieu a réalisé ces plaies. Il le ferait afin que les Égyptiens sachent que je suis l'Éternel, le vrai Dieu. Cette plaie de profondes ténèbres était un jugement contre la religion et la culture entière de l'Égypte. Le dieu soleil, Amon-Ré, était considéré comme le plus grand des dieux de l'Égypte. C'était le créateur, celui qui donnait la vie et qui inondait la terre de ses rayons énergisants. Non seulement tous les autres dieux et déesses de l'Égypte étaient impuissants, mais le plus grand et le plus important de leurs dieux, Amon-Ré, était tout aussi impuissant et inutile pour les aider dans cette obscurité. Exode chapitre 10, verset 27. Encore une fois. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon et le Pharaon ne voulut pas les laisser partir. D'ailleurs, Pharaon a dit à Moïse que c'était la dernière fois qu'il le voyait, sinon il mettait à mort Moïse. Nous arrivons à la 10e et dernière plaie, la mort des premiers-nés. La 10e plaie était très sélective. Elle détruisit tous les premiers-nés égyptiens, aussi bien ceux des hommes que des animaux. Exode chapitre 11, versets 4 à 6. Moïse dit, voici ce qu'a dit l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je m'avancerai dans l'intérieur de l'Égypte. Et tous les premiers-nés vont mourir dans le pays d'Égypte. Et puis le premier-né de Pharaon, qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui travaille aux meules. Et tous les premiers-nés des bétails, il y aura de grands cris dans tout le pays d'Égypte, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura plus jamais. Nous allons passer l'institution de la Pâque et du sang mis sur les deux poteaux et linteaux de la porte des demeures des Israélites et qui leur permirent d'échapper à l'ange exterminateur. D'ailleurs, c'était la première fois que les Israélites devaient faire quelque chose pour manifester leur attachement à Dieu, l'Éternel, et échapper à la condamnation qui devait s'abattre sur l'Égypte à travers cette plaie. Et tous les Israélites s'y sont soumis. Cette nuit même, tous les premiers-nés égyptiens moururent, y compris le fils de Pharaon et les premiers-nés des animaux. Le Pharaon comprit que s'il ne cédait pas, la nation entière allait périr. Car on peut souligner qu'à peu près les premiers nés représentent 15% de la population des Égyptiens et c'était vraiment une hécatombe parce que dans tous les foyers, toutes les familles étaient touchées par ces morts, plus les animaux. Et étant donné que la population égyptienne représentait plusieurs milliers de personnes, il y a eu plusieurs milliers de morts cette nuit-là. À nouveau, les dieux égyptiens étaient restés silencieux et impuissants. Serket, la déesse de la protection, et Merkhenet, celle qui présidait à la naissance des enfants, était impuissante à sauver les premiers-nés. Un autre dieu, Sobek, celui de la protection et de la fertilité qui incarnait la puissance de Pharaon, ne protégeait plus personne. La déesse Nekhmet, à l'apparence d'un vautour, est celle qui prenait soin de Pharaon, mais elle était impuissante à protéger le fils de Pharaon, celui qui théoriquement allait devenir le prochain Pharaon. Dans la nuit même, Pharaon, malgré les menaces qu'il avait faites à Moïse, les convoqua et leur demanda de quitter l'Égypte avec tous les Israélites et tous leurs troupeaux. Tous quittèrent l'Égypte le même jour, le jour même de la promesse de Dieu faite à Abraham 430 ans auparavant, ce qui montre bien que Dieu a une puissance infinie dans cette histoire. Il a été à même de déterminer toutes les plaies et à même de déterminer la conclusion. Alors nous nous arrêterons à la sortie de l'Égypte. Nous pouvons reprendre ce que Dieu avait dit à Moïse dans Exode chapitre 7, versets 1 à 5. Premièrement, je ferai sortir les Israélites d'Égypte. Deuxièmement, je le ferai par de grands jugements. Et troisièmement, je le ferai afin que les Égyptiens sachent que je suis l'Éternel, le vrai Dieu. L'Éternel a tenu sa parole. Il a libéré son peuple. L'Éternel a réalisé de grands jugements sur l'Égypte en humiliant ce peuple et son roi Pharaon par de nombreuses plaies. L'Éternel a ridiculisé tous les dieux et déesses de l'Égypte, complètement impuissants contre ces manifestations et montré que lui, l'Éternel, était le vrai Dieu par toute la terre. Ne croyez pas que cette époque sera révolue. Dieu a encore un peuple à sauver et à libérer. Cette fois-ci, il l'a promis à Jésus-Christ, son Fils. C'est l'Église qui doit être sauvée. Attendons cette délivrance qui doit arriver bientôt et ne nous étonnons pas des catastrophes qui doivent arriver sur le monde. Voilà ce que...
Merci Jean-Marie pour cette superbe prédication ce matin. Une grande instruction pour nous. Mais j'ai une question pour chacun. Qui ou laquelle est votre Dieu aujourd'hui? Est-ce que votre Dieu est le Dieu du ciel? Ou est-ce que votre Dieu est le Dieu d'argent, le Dieu de vos possessions, le Dieu de ton grande maison, le château où tu habites? Qui est ton Dieu aujourd'hui? Parce que nous avons entendu que le Dieu du ciel, il est tout puissant. Il y a plusieurs dieux et déesses en Égypte à cette époque, et avec chaque plague. En anglais, Dieu, notre Dieu, il a montré son puissance, il a battu les dieux et les déesses d'Égypte. Donc, je juste vous dis, pour une petite réflexion, qui est votre Dieu aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est le Dieu de ciel? Ou est-ce que tu mets vos confiances dans autre chose? Et si tu mets vos confiances dans autre chose, réfléchis le message que nous avons entendu. Est-ce que ton Dieu peut te sauver? Non, je doute. Est-ce que ton Dieu peut donner tout que tu as besoin? Non, pas du tout. Donc ce message ce matin, c'est très fort, très, très puissant le message. Merci Jean-Marie.